au milieu. Il roulait souvent la capote baissée. Il prenait des airs. Surtout le gamin, quand il me voyait traîner sur le trottoir. Je marchais, il roulait. Un jour, il a craché dans ma direction. La mère était jolie. Chaque fois avec un foulard différent. Le père avait des lunettes de course. Et leur gosse grignotait sans cesse les lèvres barbouillées de chocolat. Lorsqu'il arrivait à un carrefour, le père actionnait son klaxon électrique. Hurlement de cuivre, il faisait sursauter les fillettes, et le fils riait fort du gâteau plein la bouche. En arrivant à Belle-Île, j'avais la photo de la voiture dans mon paquetage, découpée dans un vieux journal qui traînait. L'image était en noir et blanc, alors j'avais colorié sa carrosserie grise en jaune citron. J'aurai la même plus tard, quand je serai grand. Ce jaune vert était une preuve de la liberté. Saisir la manivelle à deux mains, m'installer sur le siège, poser mes gants de conducteur sur le volant en cuir, et puis rouler loin, le visage giflé par la vitesse, laisser le haut mur dans mon dos, les matons, les salauds qui piétinaient le lit des nouveaux, rouler dans la campagne, dans les forêts, au bord des lacs, m'arrêter où et quand je le voudrais, et trouver une chic fille pour le siège d'à côté qui aurait un foulard différent pour chaque jour devant, et puis quelqu'un derrière, un jour, sur le siège fait exprès, une fille, un fils. Je m'en fichais, mais un enfant de l'amour, qui n'aurait jamais un ruban de soie grise au poignet, qui ne prendrait pas un air supérieur, qui ne ferait pas envie aux autres avec sa petite duchesse au chocolat, et qui ne cracherait pas pour faire honte aux pauvres. Chapitre 4. Le jour d'avant. 26 août 1934. Depuis quelques semaines, la colonie faisait la gueule. Les galoches traînaient plus encore dans les couloirs, les exercices étaient dissipés, le silence moins facile à obtenir. Il y avait chez certains colons une façon de rire qui ressemblait à de la rébellion, et de toiser les surveillants qui pesaient comme une menace. Des maçons ont été surpris sommeillant sur leurs mortiers, des forgerons rêvant sur leur enclume, des sardiniers songeant à bien autre chose qu'à leur boîte de conserve. Même les charpentiers qui clouaient les cercueils destinés aux copains tardaient à ajuster les voliges de sapin. Rien n'allait plus. Trois tentatives d'évasion en quelques jours. Napoléon agressé par un caïd devant le réfectoire. Il y avait eu une révolte chez les colons maraîchers de Bruté, de l'agitation à la sardinerie, une tentative d'incendie aux cuisines. Par deux fois, des pupilles avaient refusé de sortir de leur dortoir. À l'atelier de couture, à la ferblanterie, à la buanderie, à la menuiserie, des détenus n'avaient pas repris le travail. Même l'atelier boulangerie s'était révolté. Le pain avait été saboté. Un mitron avait versé son poids de sel dans la farine de seigle. Pire encore, deux surveillants en étaient venus aux mains devant les pupilles alors qu'ils surveillaient le promenoir cellulaire. La nouvelle courait que François Donatien de Caulemont allait être remplacé par un autre directeur. La rumeur avait envahi la colonie et la déstabilisait. Les pupilles qui travaillaient en ville dans les commerces, les fabriques ou chez les particuliers avaient entendu dire que Caulemont était devenu la bête noire des journaux. Trop politique. Il fallait que sa tête tombe. L'Ouest républicain, qui se voulait le journal des populations agricoles et maritimes du Morbihan, avait écrit que Haute-Boulogne n'était pour Caulemont qu'un hochet, une breloque de plus dans son parcours pour la députation. Selon l'hebdomadaire, le candidat était en campagne électorale permanente et se souciait plus de répression que d'éducation morale. Il ne croyait pas en la rédemption par le travail et avait transformé la colonie en un bagne pour enfants. D'autres, tels l'éditorialiste du Flambeau morbihanais, critiquaient sa gestion dispendieuse et les raisons même de la colonie pénitentiaire. D'où ce titre un matin, dans le journal des Croix de Feu et Briscard, « Notre argent disparaît dans les poches des voyous qui nous font les poches ». De jour en jour, le départ supposé du directeur nous avait rendus fébriles. Certains détenus étaient persuadés qu'il fallait lui arracher des négociations avant la venue du nouveau responsable. Suppression